Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast sur le site internet www.rdwa.fr et toutefois aussi sur YouTube, la chaîne Erdiwa. Vous pourrez écouter le podcast ainsi également à disposition. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie Marquet. Bonjour.
Bonjour.
Marie Marquet, on s'est déjà vu beaucoup de fois et tu es ici pour nous parler au nom de Sources et Racines de la programmation à venir pour la saison 2021-2022, des activités, des ateliers, des animations que vous proposerez tout au long de l'année. Et donc, des activités qui ont déjà commencé depuis le 26 septembre avec de la botanique. Il s'agit de vocabulaire botanique et caractéristiques des principales familles avec Grégory Lemoine.
Oui, alors donc ça fait partie d'un calendrier de sortie qu'on a programmé cette année. Donc pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc Sources et Racines, c'est une association qui fait en fait qui partage autour des savoirs liés au patrimoine naturel et au patrimoine culturel. Donc ça peut être à la fois de la botanique, de la mycologie, mais aussi une découverte du territoire par le biais de son histoire, des pratiques des habitants, des savoir-faire autour du jardin, de l'écologie, etc. Donc on a un champ comme ça un peu large, mais qui correspond bien à cet endroit où on vit. Et on a toujours organisé, disons, des sorties nature. Mais cette année, on a fait un vrai calendrier pour ces sorties. Donc ce calendrier, effectivement, il commençait dimanche. Mais en fait, comme il y avait ce temps très bizarre avec beaucoup de pluie et tout ça, ça a été reporté à dimanche qui vient, là, le dimanche qui arrive. Donc c'est encore possible pour les nouvelles personnes de rejoindre le groupe qui est constitué. Et là, c'est des inscriptions donc toute l'année pour un calendrier que je vais peut-être vous dire, si tu penses que c'est utile, qui en fait regroupe donc des sorties botaniques, donc 2 sorties botaniques, 2 sorties champignons et lichens, ensuite identifier les arbres, ensuite un petit tour dans la géologie qui permet de mieux comprendre l'implantation des plantes et la structure du paysage, ensuite une sortie sur les salades sauvages et les pousses comestibles, ensuite les orchidées, ensuite un atelier herbier et en dernier une grande balade botanique dans la montagne à Combo. Donc ça fera 10 sorties dans l'année. Et ce calendrier est là, s'organise différemment de ce qu'on faisait avant, puisque là c'est des inscriptions qui se font à l'année et auprès de l'USCDD. Et donc le projet pour ce calendrier, c'est de proposer vraiment une sorte de formation qui va permettre aux gens d'acquérir les outils pour être autonome dans la détermination des plantes, dans la lecture du paysage, dans la mycologie.
Voilà. Avant de continuer sur cette programmation, on pourrait aussi présenter pour les néo-arrivants sur le Diwa ce qu'est l'association Sources et Racines.
Alors c'est vrai que oui, pour développer un peu, donc on est une association, comme je disais, qui s'intéresse donc au patrimoine naturel et au patrimoine culturel. On existe depuis... enfin, formellement depuis 5 ans, mais en fait, on travaillait déjà les uns avec les autres depuis plus longtemps. Donc, on a tous une connaissance un peu construite de nos sujets sur le territoire. Et le but de l'association, donc, c'est d'animer un jardin de collection de plantes qui est dans les jardins de l'Aube, et d'organiser des événements, donc comme les rendez-vous au jardin et d'autres événements dont je vais vous parler ensuite. Et de proposer donc ces sorties, des stages, voilà, donc de partager des savoirs à la fois techniques et à la fois naturalistes autour des ressources naturelles du Diwa.
C'est en quelque sorte un regroupement aussi d'associations qui se sont fédérées en quelque sorte.
Oui, on peut dire qu'il y a des gens qui étaient déjà actifs, comme Grégory Lemoine avec Florémont. Il y a Jean-Claude Roucheuse qui a aussi ses propres activités associatives par ailleurs, et moi-même. Mais dans Sources et Racines, on met tous vraiment ce regard particulier sur le territoire et puis une synergie ensemble. Donc on est vraiment une entité, ce n'est pas un agrégat, on fait vraiment quelque chose de collectif tous ensemble.
C'est une action aussi pour le long terme, hein, j'imagine.
Oui, puis il y avait l'idée que ça pouvait permettre de faire à la fois des actions d'éducation à l'environnement, donc pour permettre aux gens de mieux connaître et du coup de mieux préserver, et aussi des actions un peu d'intégration de tout le monde, c'est-à-dire que beaucoup de personnes arrivent de l'extérieur, connaissent pas forcément de personnes anciennement installées localement, et donc il y a des transmissions qui autrefois se faisaient par les anciens vers leurs petits-enfants, qui, là, peuvent peut-être se faire en les récoltant et en les partageant plus largement, aussi avec ceux qui n'ont pas de grand-mère sur place. Voilà. Et aussi un espace pour se rencontrer entre gens différents, parce qu'en fait, il y a des gens très, très différents qui s'intéressent au sujet naturaliste, et donc ça permet dans une transversalité. C'est très ouvert à toutes sortes de publics.
Il y avait le 19 septembre aussi la journée du patrimoine, les journées du patrimoine, vous étiez participant également, avec un accès à vos jardins qu'on pourrait situer au jardin botanique de l'Aube, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous alliez proposer ? Mais on pourrait aussi demander, est-ce qu'il y a un intérêt grandissant du public sur le travail de la terre ?
Oui, alors donc cette action du 19 septembre, on fait chaque année donc plusieurs événements dans la saison. Donc les rendez-vous au jardin dont j'ai déjà parlé, les journées du patrimoine et ces deux temps forts qui sont c'est national comme événement. Enfin, à chaque fois on anime sur les thématiques qui sont proposées par le dispositif. Donc sur les journées du patrimoine, on a parlé. Donc c'était Alison Marshall-Adjé qui faisait la visite des jardins, l'accueil du public, et elle a parlé de la manière dont on partage justement le patrimoine qui est lié aux usages des plantes. Et ça, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ce sujet. Il y a de plus en plus de demandes autour de formation, de connaissance des plantes. Et voilà, donc ça marche, ça intéresse et ça fédère à nouveau des gens très différents.
Chaque membre de Sources et Racines s'enrichissent mutuellement dans cette association.
De connaissances, oui. Certainement.
Non, parce que je vois que c'est Alison qui a procédé à la visite du jardin, et elle a abordé aussi la thématique des plantes médicinales tinctoriales, qui est ton domaine.
Oui, alors en fait, sur le jardin, disons que le but d'Alison, c'était de présenter à la fois l'association et la notion de préservation des usages des plantes. Et après, c'est vrai qu'on a tous nos spécialités. Mais tout ce qui est présentation, accueil, initiation à la botanique, découverte des usages, etc. Effectivement, au fil du temps, on partage des informations et on est de plus en plus en situation de pouvoir animer les uns les autres des choses communes. Et puis après, on a vraiment nos spécialités avec un gros bagage accumulé au fil du temps qui va nous donner un peu notre personnalité.
Alors les ateliers, donc celui du 26 septembre qui a été reporté au dimanche 3
ouais.
octobre, il s'agit donc de cette balade botanique avec un abord du vocabulaire botanique dont le latin est fort usité encore aujourd'hui.
Bah, disons que c'est vrai qu'un des objectifs donc, de ces deux premières sorties botaniques animées par Grégory Lemoine, c'est de permettre aux gens, donc en faisant une balade et en étant dans l'observation, donc c'est pas un cours sur table, mais d'être quand même dans... la compréhension de comment on a classé les plantes. Et ça présente un intérêt si on veut pouvoir les retrouver dans des flores et donc les nommer et donc ensuite, par exemple, s'intéresser à leurs usages. Mais pour être sûr de ce qu'on utilise, il faut savoir déterminer une plante. Pour déterminer la plante, il faut pouvoir se servir des ouvrages de référence. Et donc, on va vers tout ce vocabulaire botanique. Après, le latin, en fait, il est présent dans les noms des plantes. Hein. C'est la manière dont on les nomme de manière un peu universelle, mais on n'a pas besoin de parler latin pour faire de la botanique en dehors de ça.
Je voudrais revenir juste sur le latin. Est-ce que le nom d'une plante et la constitution aussi d'adjectifs, d'observations latines ?
Enfin, il y a plusieurs façons dont les noms sont fabriqués, mais en général, il y a deux particularités qui sont faciles à reconnaître. C'est des fois des noms en latin qui décrivent une caractéristique, qui vont donc dire, par exemple, pour ce qui est des plantes dont je parle souvent, Rubia tinctorum. Tinctorum, ça veut dire des teinturiers. Et Rubia, donc la garance des teinturiers. Et donc, on va en fait caractériser par rapport à un usage ou alors caractériser par rapport à un aspect de la plante, une plante poilue, une plante élevée, etc. Et en dernier, bah des fois, parfois, il y a des noms de botanistes qui se retrouvent dans la structure des noms d'espèces. Mais c'est quand même principalement des caractéristiques de la plante. Donc, c'est plutôt des noms qui sont des adjectifs qui renvoient à quelque chose de précis qu'on peut observer. Ou pas.
Une description.
Ouais.
Alors, ensuite, il y aura ces stages, hein, comme tu parlais. Celui du 17 octobre, il s'agira de cuire et de cuisiner des champignons.
Oui, alors ça, on est super contents parce qu'en fait, on n'avait encore pas été jusque-là. Donc là, donc, on a notre calendrier de sortie dont on vient de parler et qui est à l'année et donc où les gens peuvent progresser. Et puis, on va proposer sur des journées complètes des temps avec cueillette et transformation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse bien parce que tout notre travail, il va aussi vers la récolte des savoir-faire, des choses qu'on peut se transmettre de personne à personne. Et donc, dans cueillir et cuisiner les champignons, bah, l'idée, c'est d'aller faire des récoltes et de pouvoir partager avec des gens qui maîtrisent bien en cuisine. Donc, c'est Jean-Marc et Gigi Chabot qui viennent de Saillant et qui sont super compétents en cuisine, qui vont proposer en fait plusieurs recettes pour pouvoir faire des bocaux, pour pouvoir les conserver ou pour pouvoir les manger tout de suite, mais en faisant des préparations adaptées au type de champignons. Voilà, et donc il y aura cette récolte le matin, recette l'après-midi, et puis dans la mesure du volume de champignons récoltés, chacun emportera une part du butin. Donc ça va être vraiment très sympa. Et il y a la possibilité de s'inscrire indépendamment de tout le programme de sortie. Donc en envoyant, de préférence en envoyant un mail à sources et racines, au pluriel, tout attaché, @gmail.com, donc ça c'est notre mail. Et là on peut s'inscrire, réserver sa place. Et donc le coût de l'atelier, là ce sera 40 € pour la journée.
À la suite, le dimanche 24 encore, ça sera de la botanique, toujours avec une identification des fruits sauvages, différents modèles et modèles de propagation, donc toujours avec Grégory Lemoine.
En fait, le calendrier de sortie là, qui est qui commencera là le 3, après le 24 octobre, le 7 novembre, etc. Toutes ces sorties, en fait, c'est une inscription à l'année. Donc, c'est pas comme le stage qui, lui, est indépendant. Et donc, cette sortie du 24 octobre, effectivement, ça prolonge l'étape, la première étape de sur le vocabulaire botanique animé par Grégory. Et là, ce sera donc sur les fruits sauvages. Ensuite, donc le calendrier se continue. Le 7 novembre, on va faire de la mycologie. Après, on fait une sortie sur les lichens en décembre. Le 23 janvier, une sortie sur les arbres, la reconnaissance des arbres en hiver, parce qu'on doit observer du coup les bourgeons, les écorces. Ça donne beaucoup d'indices intéressants. Et voilà, donc ce calendrier, il se prolonge février, mars, avril, mai, juin. Donc une sortie par mois sur un dimanche par mois. Et a priori, toujours dans le Diois, mais avec parfois des déplacements en covoiturage. Parfois, on part à pied et on va dans le périmètre de la ville de Die.
Il y a une grande richesse de fruits sauvages dans le Diois.
Eh bien, tout dépend sous quel angle on les regarde. En fait, les fruits sauvages, ça va être pas forcément des fruits comestibles. Il peut y en avoir qui sont mangeables, mais pas forcément très bons. Il y en a qui sont bons et comestibles. Il y en a qui ne sont pas mangeables du tout, mais qui sont intéressants pour parler de botanique, parce qu'ils impliquent la reproduction des plantes. Donc oui, il y a beaucoup de plantes qui, en cette saison, en automne, sont au stade de faire leurs graines et leurs fruits. Et dans les arbustes, on en a pas mal qui sont intéressants avec différents usages.
Donc, sans préciser les dates, on peut parler donc, de ces... Connaître les champignons du Diois avec Jean-Claude Rouchouze, ça c'est une proposition qu'on peut voir tous les ans.
Sur les champignons, là, il y a encore d'autres propositions, puisque en fait, Jean-Claude, à partir de aujourd'hui à 13h, jusqu'au Salon d'automne qui aura lieu du 12 au 14 novembre, il va proposer régulièrement des petites balades pour aller repérer les champignons. Et tout ça débouche sur donc cet événement Salon d'automne, qui est un peu le gros événement qu'on organise, nous, sur ses racines depuis 4 ans, donc, qui va permettre de traiter à la fois, de présenter une exposition mycologique et aussi donc, d'animer une expo autour d'une thématique.
Tu parlais du lichen aussi, ça c'est une de tes propositions de promenade et de découverte. Le lichen est-il très important sur le territoire ?
Ouais, en fait, les lichens, il y en a plein de sortes différentes. C'est un terme qui recouvre en fait un très grand nombre d'organismes qui s'appellent des lichens, qui sont des champignons en symbiose avec des algues. Donc c'est une espèce d'organisme double. Et il y en a énormément des lichens. Et ici, dans le Diois, il y a beaucoup d'espèces. Et en fait, les connaître, quand on commence à regarder les lichens, même pas forcément les reconnaître, mais les regarder, ça ouvre sur tout un monde assez fou. Il y a au niveau de la chimie des lichens des choses assez passionnantes. Et au niveau de l'écologie aussi, observer la présence des lichens, ça peut permettre de faire des diagnostics sur la qualité de l'air, les différents facteurs dont les lichens sont des marqueurs remarquables.
Je crois savoir que le lichen aime bien aussi l'air sain pour se développer.
Oui, il y a toutes sortes de lichens. Il y a des lichens aussi qui supportent très bien. Il y a des lichens qui vont se développer dans des zones plus polluées que d'autres. Il y en a qui vont supporter beaucoup d'azote, d'autres pas. C'est très très vaste en fait le champ des lichens. Il faut venir à la sortie pour avoir les détails sur le sujet parce que c'est vraiment tout un monde. Ouais.
Je me souviens depuis la promenade du Parisien sur les hauteurs de Justin, en descendant vers Barsac, il y a des terrains avec des arbres complètement recouverts de lichens. C'est magnifique à voir. Ouais. Ces lichens, justement, se développent sur des arbres en quelle santé, malades ou alors sains?
Ben, c'est intéressant de se poser cette question. Tu fais bien de la soulever. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que c'est des parasites, alors que pas du tout en fait. Ils sont complètement indépendants de leur support. Après, c'est sûr qu'ils ont une croissance très lente. Donc, le temps qu'ils deviennent très abondants comme ça, il faut que l'arbre soit très vieux. Donc, c'est pour ça qu'on voit plus les lichens très nombreux sur des arbres plutôt vieux, vieillissants, donc parfois aussi malades ou en fin de parcours. Tout simplement parce qu'en fait, pour qu'il y ait autant de lichens, il a fallu du temps pour qu'ils se développent. Mais ils ne sont pas parasites de l'arbre, ils ne tuent pas l'arbre. Et en fait, ils ne sont pas tellement en interaction... ils prélèvent rien sur l'arbre. Voilà, ils profitent juste éventuellement de l'ombre, de l'humidité, de l'écorce.
On aborde les arbres aussi avec cette visite d'Alison Marshall Arger sur les arbres, leur architecture, leur écorce et leurs bourgeons.
Ouais.
Ça se passera pareil dans la nature.
C'est pareil. Ouais. Ça, c'est vraiment donc. Toutes ces sorties-là, elles vont ensemble, en fait. Hein.
Oui, oui.
Et du coup, elles se passeront à partir au départ de Die, a priori. Et à chaque fois, donc, dans ce calendrier, l'objectif, c'est d'apprendre à reconnaître, d'apprendre à observer les spécimens qu'on va rencontrer. Donc voilà, là, ce sera sur les arbres avec des techniques d'observation qui rassemblent des critères différents pour avoir... sans les feuilles, savoir dire qu'est-ce que c'est comme arbre.
La variété d'arbres est vaste ou alors il y a des terrains propices pour des espèces plus que d'autres?
Ah ben c'est clair que oui, il y a des espèces, il y a des zones, il y a des biotopes dans lesquels on va trouver certains types d'arbres en association sur des sols qui leur conviennent bien. Il y a les ubacs où on va avoir peut-être d'autres types d'arbres. Enfin oui, il y a effectivement la diversité, elle est liée au type d'endroits, de biotopes où poussent les arbres. C'est pour ça que la sortie qui suit sur la géologie, qui est le 27 février, là, celle qui suit les arbres, elle est importante parce qu'en fait, elle va permettre aux personnes qui veulent s'initier à tout ça de comprendre qu'en fait, il y a un lien entre la géologie, l'état du sol, sa position, son ensoleillement, etc., et le couvert végétal qui s'y développe.
Les salades sauvages et des jeunes pousses comestibles, ça aussi c'est une promenade initiatique ou alors aussi on peut peut-être créer ça dans ces petits jardins potagers.
Alors là c'est vraiment l'idée de prendre des plantes sauvages, hein. C'est donc presque l'inverse du potager, c'est le côté cueilleur. Et bon, Grégory l'anime depuis très très longtemps des balades sur cette thématique et connaît extrêmement bien toutes les plantes du Diois. pour les manger. Et surtout en cette saison, donc au mois de mars, qui est le printemps, avec l'émergence des nouvelles feuilles, beaucoup de plantes peuvent se consommer, des fleurs, des différentes petites jeunes pousses. Et donc voilà, c'est pour un peu récompenser, j'ai envie de dire, les efforts en botanique de nos participants qui vont maintenant pouvoir reconnaître les plantes et se rendre compte qu'en plus, ça leur donne une petite autonomie pour manger.
À la suite, Jean-Claude Rouchouz proposera aussi une découverte des orchidées locales.
Il y en a énormément ici, des orchidées différentes. Et il y a des zones où il y a des orchidées particulièrement rares dans le Diois. Donc c'est chouette de faire cette balade pour voir justement, elles sont très caractéristiques les orchidées dans leur présence. Donc du coup, il faut s'initier pour pouvoir les reconnaître suivant où on se trouve, etc.
Je voudrais aborder un sujet, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, c'est par rapport à la faune. Est-ce qu'il y a une interaction entre la faune et la flore sauvage dans le Diois? Est-ce que vous avez constaté ça quelque part? Est-ce qu'il y a des plantes qui répondent à être plus présentes pour alimenter certains animaux que d'autres?
Ah ben c'est en perpétuelle interaction, ça c'est sûr. Oui, il y a une interaction absolument intrinsèque entre la flore et la faune, puisqu'en fait la faune se nourrit des plantes qui sont là. Toute la chaîne alimentaire, elle va des insectes aux plus grosses bestioles qui mangent les plus grosses, etc. Et donc tout ça se construit au départ du végétal vers la possibilité des animaux de plus en plus gros de se nourrir. Donc, il y a des insectes qui sont hôtes de certains types de plantes. Ensuite, il peut y avoir des oiseaux qui sont consommateurs de certains types d'insectes. Et ensuite, d'autres espèces d'animaux qui peuvent éventuellement aimer manger ces oiseaux. Enfin, voilà. Donc, il y a la chaîne alimentaire. Ça, c'est une chose. Après, il y a tout ce qui est dégradation. Donc, les plantes qui vont être chargées de la transformation, par exemple, des crottes, etc. Donc, notamment aussi beaucoup de champignons qui vont dégrader à la fois le bois, mais aussi parfois donc les déjections, etc. Donc, il peut y avoir, en fonction de l'occupation par certaines espèces, enfin, c'est un vaste sujet. Là, on ne pourra pas l'aborder en 5 minutes. Mais en tout cas, c'est vrai que, bien sûr, qu'il y a des interactions. Et par exemple, peut-être pour conclure sur vraiment la question que tu poses ici dans le Diois, ce qui est caractéristique, et ça va bien dans le sens de ce qu'on fait comme genre de parallèle dans nos recherches à Sources et Racines, c'est que le paysage du Diois, en fait, il est façonné par un pastoralisme ancien. Et il est façonné à la fois du point de vue de l'ouverture de ces paysages, de la flore qui s'y est développée plus que d'autres, qui peut-être est résiduelle, dans des prairies ouvertes où on faisait paître les troupeaux. Et ça commence très très tôt. Il y a des tas de choses à connaître aussi sur ce sujet et des archéologues qui ont travaillé, notamment Régis Picavet, qui a travaillé sur le pastoralisme, sur le Vercors déjà très ancien. Enfin bref, donc ici le paysage, il est vraiment façonné aussi par cette histoire pastorale.
Alors, à la suite, il y aura une composition d'herbier hein, avec des plantes utiles. Donc ça, c'est ouvert à tous.
Ouais, enfin, ça reste dans ce programme de sortie à l'année, donc il faut s'inscrire à l'année. Mais c'est les deux dernières sorties, donc une sortie en mai avec l'idée de faire un herbier de plantes utiles. Donc ça, c'est une proposition pour que effectivement les gens qui auront fait tout le parcours au moment où il y a les fleurs pourront finaliser un herbier et aussi indiquer des propriétés de plantes, donc avoir une sorte de grimoire personnel qui leur permet de se souvenir de ce travail qu'ils ont fait. Et donc ça, ce sera en mai. Et puis en juin, eh bien, on fera la dernière sortie donc avec Grégory sur justement cette flore pastorale de montagne. Donc ça rejoint la question que tu posais, hein, les liens entre animaux et plantes. Ben, effectivement, quand on va en montagne, les paysages du Vercors, ils sont liés aussi à leur mise en pâturage et à toute une construction dans le temps. Voilà. Donc la dernière sortie, elle sera au grand air.
C'est le salon d'automne hein, que tu veux aborder.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et nous abordons le salon d'automne. Tu précisais qu'il se déroulera du 12 au 14 novembre. Et ça sera dédié sur la semence sur cette année.
Oui, alors il faut peut-être expliquer que, en fait, ce salon d'automne, donc ça fait très longtemps qu'il existe. C'est au départ une exposition mycologique c'est-à-dire des champignons qui sont exposés, et l'occasion pour les visiteurs d'amener leurs champignons et de les faire déterminer par des mycologues qui vont les aider à reconnaître si c'est des champignons bons ou mauvais, qu'est-ce que c'est comme espèce. Donc ça, c'est la base de notre proposition, et celle-là, elle tourne depuis très longtemps. C'est Jean-Claude Rouchouz qui a mis ça en place depuis de nombreuses années. Et Sources et Racines qui porte ça depuis 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Oui, 5 ans. Et du coup, là, par contre, on a adossé à cette proposition-là, qui ne change pas, une exposition thématique chaque année. Et donc, cette année, la thématique, c'est semences. Et donc, l'idée, c'est de partager une réflexion sur l'importance des semences, à la fois dans le maintien de la biodiversité sauvage, c'est-à-dire que les plantes se reproduisent et puissent continuer à exister dans leur diversité, mais aussi dans la biodiversité cultivée, donc avec tous les enjeux d'autonomie sur la production de semences potagères dans le Diois aujourd'hui. Et donc, on va inviter à la fois des gens qui vont être vraiment dans la perspective donc, des espèces sauvages, et à la fois des gens qui vont pouvoir nous parler des problématiques paysannes autour de la semence.
Donc un salon d'automne qui permettra peut-être de vous avoir de nouveau au studio pour le présenter. Et puis on peut rappeler peut-être ou informer aussi de cette assemblée générale de l'association qui aura lieu à la fin novembre avec un petit apéro discussion sur les perspectives à venir ensuite.
Oui, alors sur le salon d'automne, j'aimerais juste compléter. En fait, on est en train de construire le programme. Donc, on reviendra à Erdiwa quand le programme des interventions seront fixés. Et on est une association ouverte aux participations d'autres personnes. Donc, si des gens veulent venir donner un coup de main, s'il y a des bénévoles qui veulent se proposer pour à la fois... Alors, ça peut être installé ou même animer un petit stand. Il va y avoir, dans le cadre du Salon d'automne, différentes propositions dont on reviendra faire le détail. Mais il y aura notamment, par exemple, un troc de graines. Il va y avoir un circuit dans les jardins du Perrier. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour pouvoir échanger sur ce que vous avez envie de partager autour de cette thématique, pour participer aux activités de l'association. En fait, c'est notre temps fort dans l'année où, en fait, on peut aussi inviter plein de nouvelles personnes à nous connaître, à travailler ensemble, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact. Et effectivement, après, bah, voilà, l'année se terminera sur cette assemblée générale. Et ce sera aussi un autre moment où les gens peuvent venir nous rencontrer, mais c'est plus austère. C'est sympa de faire ensemble l'installation de la fête d'automne. Voilà.
Alors, à qui s'adressent justement ces activités que vous proposez ? Est-ce que ça s'adresse à des professionnels ou à en devenir des professionnels du jardinage ou des plantes ? Ou alors à un public éclairé ou qui est jardinier, tout simplement ?
Alors, ça s'adresse en fait, justement, c'est une bonne question, ça s'adresse à tout le monde. Mais effectivement, on a changé un petit peu notre organisation, notre perspective, puisque jusqu'alors, on faisait des sorties à la journée qui s'adressaient à tous les publics et les gens pouvaient s'inscrire une fois sans forcément faire un cycle. Et là, avec la proposition à l'ESCDD, l'idée, c'est quand même de proposer à des gens qui ont envie d'acquérir de l'autonomie. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'avoir de connaissances quand on arrive. Ça s'adresse bien à des gens débutants ou... pas débutants, parce qu'en fait, on a les compétences pour pouvoir s'adresser à plusieurs publics en même temps. Mais donc, ça s'adresse bien à des gens qui veulent avoir, au cours de l'année, au long des saisons, le développement d'une connaissance qui leur permet d'utiliser des flores, d'identifier les choses par eux-mêmes, etc. Donc, notre projet, c'est vraiment là de s'adresser à des gens qui veulent développer leurs connaissances sous la forme d'une espèce de petite école des plantes, on va dire très, très modeste, c'est-à-dire pour tout le monde. Et non plus vraiment la balade de découverte où on l'a fait une fois, puis après on s'en occupe plus. Ben on refera peut-être aussi des formats balades, mais cela, pour l'instant, c'est plutôt le format mini-stage, c'est-à-dire on fait des cueillettes, on transforme. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et pour le coup, il n'y a pas la perspective forcément autant de formation. Voilà.
Pour connaître un peu plus sur vos activités, vous pouvez aller sur le site internet sourceetracines.vixsite.com. Je mettrai l'adresse en lien sur la page YouTube de Erdiwa. Et puis, vous avez aussi une page Facebook au nom de Sources et Racines, où là, vous tenez à jour les actualités de l'association. Il y a aussi les moyens de... Mais ça, vous les donnez sur ces sites, ouais. Les moyens de vous contacter pour justement procéder à des inscriptions de sortie.
Ouais. Alors, pour le calendrier des sorties dont on a fait le détail, là, et qui est vraiment notre grande nouveauté aussi en termes d'organisation, on est en lien avec le ESCDD. Et donc, ces sorties nature, elles sont accessibles en allant s'inscrire directement à l'ESCDD. Il reste des places. Et du coup, c'est possible, par exemple, pour dimanche, là, d'aller s'inscrire maintenant. Ou de venir faire l'essai d'une première sortie dimanche avant de définitivement s'inscrire. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Et la sortie de dimanche, les sorties de dimanche, elles sont à 13h30. Donc, ce n'est pas le matin, c'est toute l'après-midi. Voilà, 13h30, 17h.
Marie Marquet, merci d'être venue sur Erdiwa pour nous parler de l'actualité de Sources et Racines et des sorties prochainement proposées tout au long de l'année à venir. Et je souhaite une bonne soirée.
Merci Yves.
Au revoir.
Ouais, au revoir, merci beaucoup.